Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir pour commenter l'actu, Jérôme Colombin, journaliste, créateur du podcast Monde Numérique, que vous retrouverez pour le tout nouveau numéro Tout Beau Tout Chaud, samedi matin, comme d'habitude. À tes côtés, c'est Raphaël Grably, qui est rédacteur en chef adjoint de la plateforme Tech & Co. Et puis donc, Jérôme Marin, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Messieurs, on part aux USA et on s'intéresse à TikTok. TikTok qui, encore une fois, est malmené. Alors, je pense qu'ils ont l'habitude, hein. Ils doivent avoir des protections dans tous les sens là-bas parce que c'est vrai que cette menace que TikTok, qui plane sur TikTok, elle n'est pas nouvelle, hein. Ça fait des années.
Depuis
4 ans, à l'époque de Donald Trump, bien évidemment, qui voulait déjà à l'époque couper TikTok aux États-Unis. Et bien voilà, cette histoire revient sur le devant de la scène avec des élus américains, une vingtaine, qui, à la fois des démocrates et des républicains aussi, hein, c'est ça qui est assez intéressant, qui soumettent un projet de loi comme quoi TikTok devrait fermer aux États-Unis ou alors changer d'actionnaire. Parce qu'aujourd'hui, TikTok appartient à ByteDance, c'est ça, hein ?
Ouais, mais juste pour être précis, c'est pas fermé en fait. Le projet de loi dit TikTok ne pourra plus être distribué sur les applications, sur les boutiques d'applications. Mmh. Donc TikTok peut toujours exister, si tu l'as sur ton téléphone, tu peux toujours l'utiliser.
Ah d'accord.
Mais il ne pourra plus être téléchargé, ce qui revient un peu au même.
Oui, mais c'est important.
Si
tu as préinstallé TikTok, ça marchera toujours.
C'est important parce qu'en fait, quand Donald Trump a essayé d'interdire TikTok, la justice américaine a dit non, liberté d'expression, vous ne pouvez pas interdire une application. Voilà, donc on n'interdit pas l'application.
On peut empêcher de la télécharger en revanche.
Mais ça, on ne sait pas. Après, ça sera à la justice de se décider ou pas. Mais en tout cas, la justice américaine a dit que ce n'est pas possible d'interdire une application.
C'est écrit un peu différemment, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est
pour contourner en fait ce problème-là.
C'est embêtant parce que Joe Biden venait de se lancer sur TikTok en plus.
Je plaisante pas.
Vous avez vu, il avait fait son premier TikTok.
Oui, et puis comme pendant la campagne européenne, tous les candidats aux européennes, ils communiquent sur TikTok. Et pas que les candidats, d'ailleurs, les autorités européennes communiquent sur TikTok, alors que TikTok est interdit dans l'enceinte du Parlement européen.
C'est vrai.
Donc c'est toujours un paradoxe.
T'as raison, c'est le paradoxe. En fait, je pense que la volonté de ces parlementaires et de Joe Biden aussi, la Maison Blanche, qui a apporté son soutien à ce texte, c'est de se montrer dur face à la Chine. On dit la Chine, c'est une menace.
Mais excuse-moi, mais pourquoi Joe Biden va sur TikTok
à parce qu'il faut toucher un électorat jeune. Donc
c'est pas cohérent. Tu peux pas créer
un compte Joe Biden.
Après, c'est pas lui qui fait proposer le projet de loi. Hein.
Oui, mais il le soutient.
Non, mais il le soutient, c'est ce que disait Jérôme, tu vois.
En fait, je pense qu'il y a.
Les gens le voient. Enfin, je veux dire, à un moment, tu fais de la politique, il y a une campagne, tu es obligé de parler aux jeunes.
Oui.
Il n'y a pas le choix, c'est indispensable.
Mais tu parles aux jeunes sur une application que tu veux pas fermer, mais en tous les cas museler.
Non, ils veulent. Enfin. En fait, la vraie position, c'est qu'ils veulent forcer la vente. Ce que voulait faire Donald Trump, ce que veut faire Joe Biden, ce que veulent faire les républicains et les démocrates. Ils veulent forcer une vente à un acteur américain parce que TikTok, c'est une maison de mère chinoise et donc ils ont peur, il y a plusieurs craintes sur ça. Donc, la fête. Officiellement, ils ne veulent pas fermer TikTok, ils veulent forcer la vente. Et de toute façon, TikTok ne fermera pas. Il y aura forcément une vente parce que TikTok ne va pas fermer. Ils vont capitaliser sur leurs 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Donc,
oui, mais est-ce que Biden, c'est vendeur ? Ils n'ont pas de choix.
Ah non, mais ils n'auraient pas le choix, alors.
Oui, ils n'ont pas le choix.
Mais ce qui s'est passé il y a 3 ans.
Hein. Il y a 4 ans.
C'est exactement ce qui s'est
passé. Il y avait un accord avec Oracle qui a capoté parce que la justice américaine.
Il y avait Microsoft aussi dans le coup, non, à un moment.
Microsoft a été intéressé, ils ne sont pas y aller, en fait. Parce que là, il y avait des problèmes de concurrence.
Ouais. Évident.
Voilà. Mais, et en fait, ça ne s'est pas fait avec Oracle parce que la justice américaine a mis son veto en disant que ce n'est pas possible, en fait. Et après, Biden a été élu, il y a eu une accalmie. Mais là, les élections arrivent en novembre et donc il y a vraiment cette volonté de se montrer dur avec la Chine. Et on le voit avec Nvidia, avec les puces de l'IA où on augmente les restrictions pour. Voilà. Et donc, c'est une posture politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, jour pour jour quasiment, il y avait une proposition de loi aussi qui avait été présentée et elle a échoué. Et tout le monde était d'accord. La Maison-Blanche était d'accord, les républicains étaient d'accord, les démocrates étaient d'accord. Mais quand il faut voter, il n'y a personne qui vote, en fait.
Donc, voilà, et donc c'est...
T'as pas envie d'être l'élu qui a fermé TikTok.
Ces élus disent, nous implorons Biden de vendre TikTok afin que les utilisateurs américains continuent de profiter de l'application. Voilà. Donc on essaie de ménager
la chèvre. Ce qui est intéressant, c'est la stratégie de TikTok. Parce qu'à chaque fois, et comme il y a un an, qu'est-ce qu'ils ont fait TikTok ? Ils ont pris Alors, je rappelle quand même les accusations. Hein. C'est un, espionnage, deux, ingérence. Ok ? Donc, ingérence de la Chine. Qu'est-ce qu'ils font il y a un an ? Ils prennent des influenceurs TikTok, ils les envoient au Capitole. pour faire monter une tendance, ne supprime, keep TikTok, c'était Ipsop, c'était maintenez TikTok. Voilà. Et là, ils l'ont fait là, il y a quelques heures, pour ce nouveau projet de loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une notification aux 170 millions d'Américains qui utilisent TikTok.
Donc ça veut dire un Américain sur deux à peu près.
Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un projet de loi, c'est contre votre liberté d'expression. Mettez votre code postal. Une fois que vous avez mis votre code postal, on vous montre le nom de votre élu local et vous pouvez l'appeler depuis TikTok pour faire pression sur lui. C'est-à-dire que tu as une application qui est accusée d'ingérence
dans la
politique américaine et aux États-Unis et qui pour se défendre veut influer un vote. Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Non mais je suis désolé, mais on peut pas faire pire avocat pour soi-même. Et ils le font, donc a priori ils sont pas plus bêtes que moi. Donc s'ils le font, c'est qu'ils jugent que la jeunesse américaine
est assez puissante pour pouvoir
faire
renverser. Ils sont
suffisamment puissants. Parce que la défense, elle est hallucinante. On est accusé d'ingérence et on demande à tous ces agitateurs de faire pression sur les élus américains. Donc c'est la démonstration la plus élémentaire d'ingérence quand on appartient à une entreprise chinoise et qu'on dépend du Parti communiste chinois. Et malgré ça, ils sont suffisamment forts pour le faire parce qu'ils savent que les jeunes suivront.
Jérôme, puisque toi tu es vraiment au fait de tout ça, c'est un projet de loi. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est acté.
Un projet de loi à la Chambre des représentants, donc il va passer en commission. Après, il faut qu'il soit accepté à la Chambre des commissions, il faut qu'il soit voté. Pour l'instant, les projets de loi n'ont jamais dépassé ce stade en fait, de projet de loi.
D'accord.
Ils n'ont jamais été proposés parce qu'aux États-Unis, le vote, tout le monde sait qui vote quoi, en fait. Donc c'est public. Je sais que le représentant du Montana, il a voté contre TikTok. Eh bien, il y a les élections en novembre. Est-ce que je veux voter contre TikTok en disant que TikTok va mobiliser les jeunes pour me mettre dehors Donc en fait, je pense qu'il y a la posture très politique de dire il faut être contre TikTok. Mm-hmm. Et après, il y a la réalité du terrain où il faut voter. Et pour l'instant, on n'est pas passé cette étape. Est-ce qu'on la passera avant novembre? Moi, j'y crois pas du tout. Très honnêtement. Est-ce que.
Donc le TikTok ne sera pas embêté, ne sera pas obligé de se vendre aux Américains et ça restera toujours chinois?
Pour l'instant, en tout cas, oui. Après, TikTok, vous dire qu'ils ne sont pas chinois parce que c'est une filiale de Biden qui est basée à Singapour. Donc, il y a toujours ce côté-là. Mais juste sur l'ingérence, en fait. Et en plus, c'est vrai qu'ils ne se donnent pas forcément. Ils donnent un peu des arguments pour les autres. Mais en fait, l'an dernier, ils ont reconnu qu'il y avait un algorithme qui permettait de mettre en avant des contenus, des vidéos. Alors, eux, ils disent que c'est pour les marques, pour les influenceurs qui veulent mettre en avant. Mmh. Et en fait, la crainte, c'est que la Chine peut dire tiens, il y a l'élection, je vais mettre en avant tel sujet. Et comme sur TikTok, c'est du feed, c'est algorithmique, c'est pas je suis mes amis. Donc, on peut.
C'est l'algorithme total, ouais. TikTok. C'est la seule appli où c'est l'algorithme total. Twitter, il y a l'algorithme, enfin, il y a vraiment un affichage chronologique. Instagram, il y a à peu près quand même un mélange.
Bien sûr, les deux. Hein.
Même si c'est un peu à peu près équilibré, TikTok, c'est l'algorithme total. Et entre, il faut préciser aussi, entre Trump 2020 et Biden 2024, il y a eu quand même pas mal d'éléments. Il y a eu le patron du FBI, c'était en novembre 2022. Qui s'exprimait en disant TikTok c'est une catastrophe pour l'ingérence, pour l'espionnage. Mmh. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que TikTok a espionné des journalistes. Des journalistes britanniques.
Et comme par hasard, il a été interdit aussi en Europe. Enfin,
en Europe.
Tout cas, par les parlementaires européens. Par les membres du gouvernement il y a quelques mois.
Oui, c'est ça. Mais
de manière.
Voilà.
Enfin, en tout cas, sur leur téléphone officiel, parce que
encore.
Téléphone perso. Enfin,
juste une précision. En fait, il y a un projet TikTok. Ce que veut faire TikTok aux États-Unis, donc ils veulent pas se vendre. Ils veulent ce qu'ils ont. Donc un projet qui s'appelle Projet Texas, qui est d'héberger toutes les données américaines dans un cloud d'Oracle. Ouais. En Europe, il y a un projet qui s'appelle Projet Clover, qui est d'héberger les données en Irlande. Et ce projet, il est en négociation. Ça fait 2-3 ans qu'il est en négociation avec le comité. Des investissements étrangers qui a un comité très puissant aux États-Unis. Il y a un accord qui avait été trouvé en 2022 et en fait il a capoté parce que le FBI, parce que le département de la justice ont dit c'est pas possible, c'est trop dangereux en fait. Et ces autorités là, c'est de dire on peut pas faire confiance en fait. Toutes les protections qu'on pourra mettre, elles seront jamais suffisantes parce qu'il y aura toujours.
C'est pas
un
parce
moyen
que tu mets tes serveurs au Texas
qu'il y aura pas le moyen d'avoir une backdoor.
On va pas avoir un backdoor qui amène tout en Chine en fait.
Et même pas un backdoor d'ailleurs. Je veux dire, avant d'être en Chine, la donnée elle transite vers un serveur américain. Donc c'est pas parce que tu mets un serveur à l'autre bout du monde. Enfin, c'est le concept d'Internet quand même, donc c'est pas pour ça que ta donnée ne va pas aller en Chine. Et d'ailleurs, TikTok a souvent refusé de s'engager, y compris en Europe, parce que les données hébergées en Europe, quand on leur demandait, mais ok, elles sont hébergées en Europe, est-ce qu'elles restent en Europe? En général, c'était plus compliqué d'avoir des réponses. Et
parce qu'eux, ils disent qu'elles vont en Chine pour des raisons, pour améliorer le produit, pour des choses comme ça. Après, c'est la discussion.
Dans les mêmes bureaux où il y a le Parti communiste chinois.
TikTok, ton point de vue. Alors, Jérôme, je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse.
Non, j'avoue que j'ai
vu ça.
Ça très loin. J'ai l'impression que finalement, notre problème de DMA, c'est de la gnognotte.
Non, mais c'est vrai.
C'est ce problème pour les Américains. Parce que dès qu'on parle d'ingérence, en plus, ils ont de la chance. TikTok n'est pas russe, mais. Sinon, le problème aurait pris aussi une autre dimension.
Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de champion à sauver. Je pense que le jour où TikTok est interdit aux États-Unis, enfin interdit ou vendu, j'en sais rien, mais disons que ça commence à chauffer pour eux. Bon, l'action Meta, je pense qu'elle va prendre quelques pourcents. Enfin, les Américains, ils ont des champions et ils ont une puissance par rapport à la Chine qui est un peu différente. Nous, en Europe, si on veut interdire TikTok, on peut interdire TikTok. Après, vendre tes bouteilles de Bordeaux en Chine derrière, ça va être plus compliqué.
Ça va être plus compliqué.
Bon, c'est pas, les Américains aussi. Hein,
ou les sacs, là. Les sacs de luxe.
Ou les sacs de luxe, voilà.
Ce qui peut être intéressant, et forcément, c'est la question qui nous vient après, qui pourrait acheter TikTok aux États-Unis?
Mais ça, personne, en fait. C'est ça le problème.
C'est ça, personne.
C'est que ça coûte très cher. TikTok, c'est valorisé 180 milliards de dollars.
Waouh.
Donc, après, c'est TikTok America, mais TikTok America, c'est peut-être le maximum, c'est peut-être 100 milliards, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, on va pas avoir Meta à racheter TikTok.
Oui, c'est ça, tu peux pas avoir Meta de fait.
Donc, le plan qu'on avait avec Oracle, en fait, c'est que c'était distribué aux actionnaires actuels. Enfin, c'était un truc assez complexe. Mais l'entreprise qui a les moyens d'acheter TikTok, il y a forcément des problèmes de concurrence en fait derrière.
Ouais, et puis Elon Musk, à mon avis, jettera l'éponge.
Il est déjà pris.
Il est déjà pris avec X, donc il ne va pas s'acheter TikTok. Quoique, oui. En tout cas, on va suivre ça de près, comme tu le disais, même si les probabilités que tout ça arrive sont quand même assez ténues. Hein. Dans l'actualité, on revient en France avec, encore une fois, des tensions entre Spotify, qui est l'appli de musique de streaming numéro 1, hein, alors en France, mais un peu partout dans le monde, et Spotify qui peste contre la France et qui le dit haut et fort depuis quelques semaines, avec des menaces qui sont franches. Il faut savoir que Spotify n'est pas content et Spotify l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux par la voix de son directeur général Antoine Monin, va augmenter ses prix. Je vous propose d'écouter un petit extrait justement de son intervention sur les réseaux sociaux et juste après on revient, c'est donc le directeur général de Spotify France qui parle.
En 2022, Spotify a reversé près de 225 millions d'euros à l'industrie musicale en France, ce qui représente près d'un quart des revenus du secteur. Alors on veut bien contribuer, mais on le fait déjà, et beaucoup. Et ce qui nous dérange, c'est qu'on vient encore taxer les plateformes. On a tout fait pour essayer d'éviter cette taxe et d'en arriver là. On a fait beaucoup de propositions au gouvernement français, et on avait même trouvé une solution avec une contribution volontaire. Mais nous, on ne peut pas absorber le coût de cette mesure. Nous sommes une entreprise indépendante, européenne, et nous n'avons juste pas les moyens de payer cette nouvelle taxe sans la répercuter d'une manière ou d'une autre. Alors, hélas, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, on va être obligé d'augmenter nos prix en France dans les semaines qui viennent.
Voilà, donc c'est très intéressant. Alors, il faudrait écouter toute la vidéo parce qu'elle est beaucoup plus longue. En fait, Léa, notre productrice, a pris ce bout qui est quand même assez, cet extrait qui est quand même assez évocateur. Mais en fait, Spotify dit que les conséquences en fait de cette taxe en France va avoir, ça va faire un peu, c'est un peu la théorie des dominos parce qu'il faut savoir que au-delà des 225 millions qu'il reverse en fait aux ayants droit, Spotify donne beaucoup d'argent à des concerts, à des festivals, des choses comme ça. Ils ont dit tout ça, on va arrêter, on va arrêter la tube. Donc en fait, ils vont assécher plein de on va dire de concerts, enfin des choses comme ça, simplement pour dire écoutez, on paye cette taxe, on n'est pas d'accord, la France est la seule à nous faire payer cette taxe supplémentaire, on augmente le prix en France.
On a un peu envie de se dire, il faudrait peut-être pas trop charger la mule quand même, hein, parce que alors, on n'est pas dans les comptes de Spotify, on ne sait pas effectivement.
Enfin, quand on regarde les comptes de Spotify, ça gagne pas d'argent Spotify, hein. Ça ne gagne pas d'argent.
Voilà, et là, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'on peut plus, quoi. Ils peuvent
au niveau
plus,
mondial,
ils peuvent plus. Alors c'est vrai que bon, peut-être qu'on le paye moins cher que dans les autres pays, non Spotify, il me semble.
Non, c'est la même chose,
c'est la même chose partout.
C'est 10,99 non aujourd'hui.
Oui, ils ont augmenté d'un euro.
Ouais, ils ont augmenté, ils sont passés au-dessus des 10.
Et après, la question, c'est où va cet argent? C'est donc, il va au Centre National de la Musique?
C'est ça.
C'est ça, hein. Moi, je suis allé faire un tour sur le site du CNM cet après-midi. Alors, c'est intéressant pour savoir exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas de redistribution directe aux artistes ou autres, hein, puisque ça, Spotify, il y a d'autres circuits pour rémunérer les artistes. Mais le Centre de la Musique, ouais, ils font des choses intéressantes. Donc, ils font de la formation avec les collectivités locales. Il y a aussi une verticale et une dimension environnement. Il y a une dimension parité homme-femme, etc. Voilà, super. Mais est-ce que tout cela justifie de faire payer le consommateur, finalement, pour, sur la musique qu'il écoute en streaming? Je ne sais pas.
Après, la taxe, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est 1,2% en fait. Donc si on rapporte 1,2% au prix de l'abonnement, ça fait 10 centimes de plus par mois pour le consommateur. Donc ce n'est pas non plus énorme. Ce que j'entends.
Mais d'après ce que j'ai compris, enfin, avec les taxes, ça fait un effet qui est beaucoup plus.
Enfin, mais moi, je comprends le discours de Spotify, mais je trouve qu'il est un peu. Comment dire ? Spotify vient d'augmenter les prix. Ce patron, Daniel Ek, a dit qu'ils allaient en continuer d'augmenter les prix. Donc, voilà, c'est un peu...
Tu veux dire qu'ils se servent de ce prétexte-là pour augmenter ?
Non, je pense que là, c'est vraiment... voilà, on va répercuter, voilà, on est pour vraiment montrer leur côté, leur désapprobation, le fait qu'ils sponsorisent plus des festivals et des choses comme ça. J'attends de voir pour voir si c'est vraiment vrai ou pas.
Ils ont donné des exemples concrets, hein.
Ouais, bah après, peut-être qu'au départ, on verra si dans un an ou deux, ils continueront à plus le faire. Ouais. Mais je trouve qu'on va dire, oui, voilà, on va nous taxer de 10, 15 centimes ou 20 centimes sur l'abonnement. Quand on a déjà augmenté l'abonnement et qu'on a déjà prédit qu'on allait continuer d'augmenter l'abonnement, bah, je trouve que les deux discours sont un peu. Les deux discours à côté sont un peu bizarres, en fait.
Raphaël ?
Bah, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait les autres ? Parce que cette.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas que Spotify dans la vie.
Oui, ça concerne tout le monde.
Il y a Cobuzz qui était avec nous sur notre plateau cette semaine.
Il y a Apple Music. Et moi, je commence.
Il y a Amazon Music.
Oui, il y a Amazon. Okay, hein. Mais moi, je commence à me demander si au bout d'un moment, et tu le dis, c'est pas rentable. Donc, est-ce que le service de streaming comme ça, c'est quoi le vrai prix? C'est quoi le vrai prix de ce service de streaming qu'on paye? Cet accès qu'on a qui est identique, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Bon, hormis Cobuzz qui est un peu spécifique, combien ça coûte? C'est quoi le vrai prix de tout ça? Parce que on voit, enfin moi je suis désolé, hein, 10 euros par mois, 11 euros par mois, par rapport au streaming vidéo où on paye beaucoup plus cher pour des contenus qu'on n'utilise pas forcément. Quand on voit, enfin 11 euros par mois, je trouve que c'est pas cher par rapport à ce qu'on avait acheté des CD, etc. Je veux dire, d'avoir toute la musique. C'est-à-dire, on n'a pas en vidéo, on n'a pas d'équivalent. On n'a pas tous les films. On a des bouts de catalogue avec des bouts de séries pour lesquels il faut payer assez cher. Et à la fin, on arrive à 50-60 euros par mois. La musique, c'est pas pareil. On a tout. On a tout. Je veux dire, quasiment. C'est rare de pas trouver quelque chose quand même sur Spotify ou sur Deezer, etc. Et donc pour moi, c'est la question de la musique. C'est combien ça vaut la musique par mois? Parce que Spotify, Deezer, Apple Music, c'est la musique.
Mais après, c'est un délicat équilibre entre, on va dire, un prix psychologiquement acceptable par les consommateurs, oui, et l'extinction du piratage. Parce que rappelons quand même que Spotify a pas tué le piratage, mais en tous les cas, il lui a mis un sacré coup derrière la nuque.
C'est là où le piratage, sur du smartphone... C'est plus difficile, et je pense que l'habitude du streaming légal.
Sur Android,
légal,
c'est pas très compliqué, non, les amis. Je ne veux pas rentrer dans les détails.
C'est plus difficile de télécharger une application, voilà, et de créer un compte.
Non, ouais. Mais il y a 20 ans, quand on était tous sur un ordinateur, bon, la tentation entre acheter le CD et le mettre dans son lecteur pour en profiter et aller sur Emule ou sur Kazaa ou je ne sais pas où, bon, tu te dis, en termes de manipulation, c'était pareil.
On chopait plein de virus et tout, ouais, c'était très sympa.
Exactement. Non, là, j'y crois pas, mais. Enfin, j'y crois moins, en tout cas, et moins massivement, en tout cas. Mais non, la question que je me pose, c'est quoi le prix? C'est quoi le vrai prix? Et c'est là où je me dis que finalement, être un pure player, ça risque de devenir peut-être un désavantage. Et c'est là où je me dis qu'Apple Music va avoir un vrai avantage, c'est-à-dire qu'Apple n'a pas besoin qu'Apple Music soit rentable. Ils peuvent être à peu près flat.
Ils s'en foutent. Eux, c'est juste un service supplémentaire qui rentre dans un package de services.
Même s'ils ont besoin maintenant...
Comme Amazon.
Ils ont besoin vraiment...
Comme Amazon.
Voilà, exactement. Mais Apple Music, pour moi, peut avoir un avantage là-dessus. Avec
Google,
position...
d'ailleurs, parce que Google, ils ont YouTube Music.
YouTube Music est la quatrième plateforme.
Ils cartonnent, d'ailleurs. Et il y a plein de gens qui sont prêts à payer au moins 10 euros pour ne plus avoir de publicité.
Mais moi, je trouve
allez-y,
que
c'est plein de podcasts.
Mais quand tu dis charger la marque, oui, moi je trouve que Netflix, enfin toutes les plateformes, Prime Video, Disney, là on charge la marque. Parce que franchement, on a 3-4 séries et des films, des vieux films.
Au niveau tarif, tu veux dire?
Oui, au niveau tarif, je suis désolé, moi la musique, 11 euros par mois, toute la musique, 11 euros par mois.
Ouais, mais il y a des tas d'offres, discounts pour les étudiants, etc.
Et en plus, bien sûr.
Ouais, tu rajoutes 3 euros, tu as 6 comptes, enfin. Voilà.
Et je ne comparerais pas ça à la vidéo, en tout cas, parce qu'on n'est pas sur le même produit.
Juste deux éléments pour te répondre, Raphaël. Déjà, on était à 11 euros, mais avant, on était à 10 euros, et pendant des années, ça n'a jamais augmenté, en fait. Spotify s'est lancé à 10 euros, ils sont restés à 10 euros pendant des années.
Ouais, c'était 9,99.
Quand on compare à Netflix a commencé à 10 euros, et ils sont aujourd'hui à, quasiment 20 euros, quasiment. Donc, déjà, il y a ce côté-là où c'est pour ça qu'en fait, ils veulent augmenter les prix, et Deezer aujourd'hui est passé à 12 euros. C'est le premier qui est passé à 12 euros. Donc il y a un effet de rattrapage, ils se disent on peut continuer à augmenter les prix. Et pourquoi les plateformes ne sont pas rentables? Parce que Spotify, le vrai problème de Spotify, c'est qu'ils reversent 70% de leur chiffre d'affaires aux ayants droit, donc aux musiciens, aux compositeurs. Et donc, il ne reste que 30%, et avec 30% pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, Spotify a eu un trimestre, depuis qu'ils sont rentrés en bourse, oui. Un trimestre dans le vert. Sinon, tout le reste, c'est de les pertes. Donc, ils ont cherché, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi dans les podcasts, notamment, ou dans les livres audio aujourd'hui, parce qu'ils cherchent des moyens alternatifs pour gagner de l'argent, pour augmenter leur marge. Mais sur le streaming, en fait, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. La marge est beaucoup trop faible pour gagner de l'argent.
Oui, et puis, les artistes se gaffent pas forcément. Je ne parle pas des très gros, hein, mais je veux dire, il faut y aller pour gagner de l'argent avec du streaming quand on a un
artiste. Pour ça que...
Oui, c'est vrai que les règles de répartition sont étranges.
Voilà, c'est en train de changer aujourd'hui, en fait.
Voilà, mais si Spotify se gavait, on dirait, bon, voilà. Là, Spotify se gaffe pas du tout. Les artistes, je parle pas des gros.
Oui, Taylor Swift, à mon avis, elle se gave.
Non, je parle de l'artisanat, quoi, presque. Enfin, des artistes qui vivent de Spotify ou du streaming, mais qui font pas des tournées.
Ouais, mais ce qu'ils vivaient à l'époque du CD, c'est toujours pareil, tu vois.
Il faut quand même dire.
Non, mais il y a un moment, voilà. Donc, il n'y a pas un argent.
Il y en a plein qui n'existaient pas à l'époque du CD. Ouais,
mais donc, il y a un moment, je pense qu'il faut accepter. Peut-être de payer plus cher. En tout cas, moi, cette taxe streaming, alors la répartition, je suis d'accord avec toi. Moi, je préférerais que ce soit une vraie taxe qui dise les choses et qui soit peut-être plus importante, mais qui dise c'est aussi pour les ayants droit directement.
Ben voilà.
Et je trouverais ça beaucoup moins hypocrite que la copie privée, qui est justifiée par un usage qui n'existe plus, où là, c'est montant, c'est 300 millions d'euros par an, la copie privée. Et moi, je trouverais ça plus réglo et plus honnête de dire bon, on arrête la copie privée qui est un scandale,
voilà.
Et on fait une taxe, une vraie taxe sur le streaming qui est plus importante. Mais qui va vers les ayants droit.
Ouais, cette copie privée, alors quelle fumisterie, vraiment, c'est incroyable ce truc-là. C'est une taxe d'un autre âge, en fait.
Elle est illégitime depuis le premier jour.
Oui, histoire. Alors déjà, elle était illégitime dès le premier jour, mais elle est aujourd'hui d'un autre âge.
Complètement.
Parce qu'elle est incompréhensible et injustifiable aujourd'hui.
Et d'ailleurs, ils font tout pour éviter de la justifier.
Bien sûr.
Il n'y a pas les enquêtes.
Il nous reste 2 minutes. On évoque cette petite curiosité. Alors, c'est encore une rumeur, hein, mais tu voulais nous en parler, Raphaël. C'est Apple qui préparait un immense MacBook pliable.
Oui. Et alors.
Waouh! Un truc, voilà, c'est une énorme valise. Oh, j'ouvre mon MacBook là.
20 pouces.
Mais c'est quoi ce truc?
Oh, ben, j'en sais rien.
Non, mais déjà, ça
j'en sais rien.
Bullshit, quoi.
Non.
Après, pour 2027.
Non, c'est pas bullshit parce que tu sais, il y a beaucoup de rumeurs bullshit.
Ok, c'est un type bien informé.
C'est qui est l'analyste le mieux informé sur Apple. Et en fait,
non, il y a peut-être un mec chez Apple qui s'est dit tiens, on pourrait
Quand ça arrive dans les oreilles de Ming Chu Kuo, c'est que c'est.
C'est qu'ils ont besoin de le faire savoir.
T'es pas sur la ligne de production, mais enfin, t'es pas si loin que ça. Il parle de 2027, si j'y vais.
2027.
C'est demain. Mais ce qu'il dit. Et en fait, alors.
C'est dans 3 ans, quoi. Tout dépend.
Non, mais le MacBook 20 pouces, moi, je trouve que l'usage est génial.
C'est une voiture, ça.
Parce que t'as besoin maintenant de grand écran. Tu travailles avec un portable. J'ai envie de dire, c'est l'intermédiaire avant que le Vision Pro soit opérationnel, finalement. Hein.
Oui, c'est ça.
T'es entre le MacBook Air 13 pouces et le Vision
c'est
Pro.
C'est l'informatique un peu spatiale.
Voilà, exactement. Non mais c'est vrai.
Alors ça ressemblera à quoi ce truc?
J'en
sais
rien.
Avec un écran qui se déplie,
probablement, oui.
J'imagine que l'idée c'est d'avoir.
En fait, il se gonfle. Tu sais, tu le jettes par terre.
Non, mais c'est d'avoir avec un 20 pouces avec un encombrement d'un 13 pouces.
Ouais, bah,
sinon, je vois pas l'intérêt. Donc j'imagine que c'est ça. Mais ce qu'il dit aussi.
Ça dit, moi, c'est preneur. Hein.
Non, et ce qu'il dit aussi, c'est le seul appareil.
C'est ça qui est intéressant.
C'est le seul appareil pliant sur lequel Apple travaille vraiment, ou en tout cas, ils ont un planning.
Moi, j'y crois pas, sincèrement.
Donc ça veut dire.
Moi non plus.
Moi, je suis sûr qu'il y a un iPhone pliant dans les.
Moi, ça, j'ai jamais cru.
Moi, j'y crois. Moi, vraiment, j'y crois.
Tant que les ventes, elles augmentent pas, à mon avis, ils iront pas.
Mais ça augmente pas, mais le Vision Pro, il y a personne, ça se vend pas, mais ils lancent ce truc là.
Oui,
et
mais
Apple, dès qu'ils sortiront
Samsung, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le smartphone client.
Mais le Vision Pro, c'est eux qui l'ont inventé. Le smartphone client, c'est pas eux qui l'ont inventé.
Ouais, Samsung, mais ils réinventent des usages. Et moi, je suis persuadé.
C'est là où ils réinventent le client. On les attendait sur l'iPhone, sur l'iPad, et bam, ils arriveront sur le PC.
Alors, on est quoi? On est en 2024. Si en 2026, il y a pas de smartphone client, je vous invite tous au resto.
Chez Apple, alors là, c'est sûr que non.
Non?
Ah non.
Sûr? Et moi, alors, je suis pas d'accord avec toi.
Je te signale qu'on a eu le même débat sur l'Apple Car il y a quelques années.
Ouais. J'avais dit qu'il allait avoir un Apple Car, c'est ça?
Je me souviens plus. Je me souviens que j'en aurais jamais.
Il avait raison jusqu'à la semaine dernière.
Voilà. Ouais. Tout ça parce que tu veux que je te paye un resto. J'ai bien compris. Ok. Bon, ben en tout cas, c'était top. Merci beaucoup à tous les trois. Et dès que ce MacBook pliant arrive. Évidemment, Raphaël viendra avec.
Hein, avec plaisir.
Merci Jérôme.
Merci à vous.
Jérôme Marin, donc fondateur de la newsletter Café Tech. Autre Jérôme Colombin, cette fois-ci. Merci d'être là.